Sons d'Europe, Catherine Roland.
Russian authorities state their proposed addition of foreign media to the foreign agent list is simply a reciprocal response to the U.S. Justice Department.
Bonjour à tous, vous entendez là un extrait du site de Radio Free Europe, visé en partie par un texte critiqué par les organisations internationales comme Amnesty International ou Human Rights Watch. En pure perte, hein, Vladimir Poutine s'apprête à entériner la loi sur les médias étrangers. Elle vient de passer à la Chambre haute du Parlement. Moscou pourra ainsi désigner certains médias comme des agents de l'étranger. En ligne de mire, donc, Radio Free Europe. Thomas Kent, le président de la radio, s'en inquiète. Daniel Valo l'a rencontré à Moscou.
C'est l'une des rédactions qui pourrait être la première à subir les conséquences de cette loi. Radio Free Europe a déjà reçu un courrier du ministère russe de la Justice à ce sujet. Thomas Kent, son président, ne comprend pas cette menace. Il la comprend d'autant moins qu'il s'estime déjà soumis à de nombreuses pressions de la part des autorités russes.
Il faut garder en tête que notre travail maintenant est sujet à beaucoup, beaucoup de limitations, surtout en comparaison avec la liberté de la télévision RT et de Sputnik aux États-Unis.
Alors, quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes déjà confrontés avant même que cette loi ne soit adoptée et qu'elle ne soit promulguée?
Alors, nous n'avons pas accès à la télévision par câble. Nous n'avons pas de fréquence radio. Nos correspondants sont jugés par des tribunaux russes. Un de nos correspondants en Crimée vient d'être jugé à cause d'un article qu'elle a écrit. Nos journalistes ont été battus. Ils ont eu des ennuis avec des accréditations.
Et Thomas Kent, qui défend la qualité du travail journalistique proposé par Radio Free Europe, nous sommes indépendants, les valeurs que nous soutenons sont des valeurs universelles et nous n'acceptons aucune pression de qui que ce soit, nous a-t-il expliqué au cours de cet entretien.
À un mois de nouvelles élections régionales appelées par Madrid, la crise catalane est plus profonde que jamais. Certains élus sont en détention provisoire. Le leader Carles Puigdemont dirigera la campagne électorale depuis son exil belge. À la tension politique s'ajoute une tension économique. 2500 entreprises ont d'ores et déjà délocalisé leur siège social hors de Catalogne et les appels en Espagne à boycotter produits alimentaires, médicaments ou voitures fabriquées dans la région sécessionniste se multiplient. Une situation inquiétante pour les entreprises qui ont décidé de rester en Catalogne. C'est le reportage de Laetitia Farine.
Quiero pedir a todos los españoles que compran y consumen productos catalanes que no dejen de hacerlo nunca.
Si le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a tenu il y a quelques semaines de cela à s'opposer publiquement au boycott des produits catalans, c'est que le phénomène a récemment pris de l'ampleur. Produits catalans, non merci. Il faut les frapper là où ça fait le plus mal, au portefeuille, ou encore, ceci est une liste des marques qui soutiennent l'indépendance de la Catalogne, partagez-la. Voici quelques-uns des messages qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux en Espagne, des messages publiés par des groupes nationalistes espagnols et qui visent en grande majorité des produits de consommation issus de l'industrie agroalimentaire. Au supermarché, certains utilisent même des applications mobiles pour scanner leurs produits et connaître leur origine. Selon Albert Ponce, président du Cercle des entreprises catalanes, une association indépendantiste, ce boycott n'a pas de sens car il n'affecte pas seulement la Catalogne. Pour lui comme pour beaucoup d'autres, l'exemple le plus flagrant est celui du cava catalan, un vin mousseux traditionnel consommé surtout pendant les fêtes de Noël et qui a déjà subi deux boycotts. Le premier en 2006 lors de la révision du statut d'autonomie de la Catalogne, le second en 2014 après la consultation sur l'indépendance de la région.
Ce que perdait la Catalogne, c'était la valeur ajoutée que la région apportait à ce produit, c'est-à-dire le vin mousseux, le contenu de la bouteille. Mais le verre se faisait à Valence, le liège du bouchon provenait d'Estrémadure, l'étiquette était imprimée à Saragosse, l'entreprise chargée de la publicité était à Madrid. Donc pour une dizaine de millions d'euros de pertes, la Catalogne en subissait deux, l'Espagne en essuyait cinq et le reste se diluait dans le monde entier. En clair, le boycott n'a pas atteint son objectif. La Catalogne a juste internationalisé plus vite son économie.
À une quarantaine de kilomètres de Barcelone, Josep Mariamin Ingeld dirige une entreprise qui fabrique des produits chimiques pour le secteur de l'alimentation et de l'entretien. Vendant 60% de ses produits directement à d'autres entreprises à l'étranger ou en Catalogne, il n'est pas vraiment victime de boycott. Au contraire, la situation politique actuelle l'a même certaines fois avantagé.
Il y a effectivement des changements, mais ils ne sont pas tous négatifs. La semaine dernière, nous étions en réunion avec un gros client qui avait souffert d'un boycott. Et cela nous a été profitable. C'est une entreprise qui fournit des produits à des chaînes de supermarchés. Une de ces chaînes a annulé sa commande parce qu'elle ne voulait pas traiter avec une entreprise catalane. Du coup, cette entreprise, dont nous sommes déjà clients, nous a donné l'opportunité d'augmenter nos ventes de 2,5% cette année. Le boycott a donc des effets très pervers et très étranges. Parfois, on pense qu'on va vendre moins, et puis d'une semaine à l'autre, on se rend compte qu'on vend plus.
Le cas de Josep Maria Mingel est toutefois loin de représenter la norme. Que leur patron revendique ou non leur soutien à la cause indépendantiste, de nombreuses entreprises sont identifiées malgré elles à la région, et les conséquences de cette affiliation sont souvent négatives. C'est ce que révèle une récente étude réalisée par Reputation Institute, un cabinet de consultants américains dont Enrique Johnson est le responsable en Espagne et en Amérique latine.
À la question directe, avez-vous cessé d'acheter des produits catalans ? 23% déclarent sans hésiter oui. Et il faut ajouter 21% de gens qui disent qu'ils comptent le faire. Et à l'avenir, en cas d'indépendance effective, 49% des Espagnols promettent qu'ils cesseront d'acheter des produits catalans. Il faut savoir que les ventes annuelles de la Catalogne en Espagne représentent environ 40 milliards d'euros. Donc le 49% de boycott, cela veut dire près de 20 milliards de recettes en moins pour les entreprises. Prise catalane, c'est beaucoup.
Pour Josep Maria Raya, professeur d'économie à l'université Pompeu Fabra de Barcelone, l'importance donnée au boycott des produits catalans, notamment dans les médias, est trop importante.
Le processus indépendantiste a eu beaucoup plus d'influence sur le tourisme et sur la fuite des entreprises. Certaines font juste un changement de domiciliation fiscale, mais d'autres s'en vont vraiment. Et l'expérience montre que certaines d'entre elles ne reviendront pas. Ce sont de vraies répercussions. Le boycott des produits reflète plus la tension et les sentiments personnels, mais je ne crois pas que ce soit le plus important.
Si le boycott doit être envisagé avec plus de recul, c'est parce qu'il est éphémère, selon l'économiste.
Bien qu'il y ait déjà eu d'autres opérations de boycott au début du processus d'indépendance, ils ont fini par s'atténuer et les gens sont passés à autre chose. Mais la gravité des événements de ces derniers mois a engendré le retour du boycott, un boycott plus important que jamais. Les gens s'habitueront à la situation et tout leur paraîtra normal, mais il faut une situation stable, ce qui n'est pas le cas actuellement.
À l'approche des fêtes de fin d'année, le boycott devrait rester un sujet d'inquiétude pour les producteurs catalans, car la résolution de la crise politique dans la région devrait prendre des semaines, voire des mois, après la proclamation des résultats des élections du 21 décembre convoquées par Madrid.
Longtemps épargnée, la très catholique Croatie succombe à son tour à la vague islamophobe qui submerge l'Europe centrale et orientale. En chef d'orchestre, on retrouve ici la présidente Grabar Kitarović et Miroslav Tudjman, le fils du père de l'indépendance croate, avec un leitmotiv « Le pays serait le nouveau rempart européen de la chrétienté », Simon Rico.
Ces derniers temps, on se croirait revenu aux noires années 1990 en Croatie, quand la guerre faisait rage dans l'ancienne Yougoslavie et que Zagreb expliquait que les très nationalistes combattants du Conseil de défense croate se battaient en Bosnie-Herzégovine pour éradiquer l'islamisme radical. Alors que les relations se sont tendues depuis plusieurs mois avec Sarajevo, à cause de la volonté des Croates de Bosnie de créer une troisième entité, un projet appuyé par Zagreb, la présidente Kolinda Grabar-Kitarović a jeté de l'huile sur le feu, déclarant que 10 000 terroristes islamistes potentiels se trouveraient en Bosnie-Herzégovine. Des propos qui ne s'appuient sur aucune donnée fiable et qui sont même contestés par les services de renseignement croates. Cela lui permet toutefois de se poser en protectrice de l'Europe face à l'islam radical prétendument posté à sa porte. La présidente croate peut en outre compter sur le soutien des cadres, de la mouvance ultra-conservatrice qui a le vent en poupe en Croatie et qui s'appuie notamment sur les réseaux de la puissante et réactionnaire Église catholique. Plusieurs de ces personnalités ont récemment publié des ouvrages pour dénoncer sur un mode sensationnaliste, je cite, « le problème de la Bosnie-Herzégovine », autrement dit l'islam. Un tir de barrage qui précède de quelques semaines les verdicts attendus fin novembre au tribunal pénal international de La Haye contre les anciens dirigeants de l'Herceg Bosna, la république croate sécessionniste d'Herzégovine. Devant un tel acharnement, le chef de la communauté islamique de Bosnie a fini par réagir. D'ordinaire très discret, le reïs ul ulema Hussein Kazavovic a demandé à Zagreb d'arrêter sa campagne malveillante visant à discréditer les Bosniaques. La Croatie avait jusqu'à présent évité de sombrer dans l'écueil de l'islamophobie, mais face aux difficultés économiques, faire peur reste un argument mobilisateur pour l'opinion publique.
Vous le savez peut-être, les bactéries résistantes aux antibiotiques sont à l'origine de 25 000 décès chez les hommes chaque année. En clair, nous mangeons trop de viande saturée aux antibiotiques, car leur utilisation abusive dans les élevages contribue à la propagation de ces bactéries résistantes. Le Bureau européen des unions des consommateurs, le BUC, a d'ailleurs lancé une campagne d'envergure pour sensibiliser les éleveurs. Parmi les bons élèves européens, on retrouve une fois de plus les pays scandinaves. La Belgique fait beaucoup moins bien, même si les mentalités et pratiques changent dans le royaume. Alice de Bâtisse est rendue dans les fermes belges de la région de Namur.
Denis Lecomte est vétérinaire à Métay. Nous l'accompagnons à une consultation.
Donc nous allons chez monsieur et madame Portetel à Métay pour regarder une vache, pour adapter éventuellement un traitement au tarissement et pour soigner une gastro-entérite également.
Les vaches de cette ferme sont en période de tarissement, c'est-à-dire qu'elles ne font plus de lait. C'est un moment critique, les pies peuvent rapidement s'infecter, des infections qu'on appelle mammites subcliniques. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de signes qui permettent de les détecter. Avant, les éleveurs optaient pour des antibiotiques en traitement préventif, mais depuis quelques années, on agit différemment.
Vous avez un drôle d'instrument en main.
Oui, donc c'est une palette en fait qui sert pour effectuer un California mastitest. Ça va permettre de diagnostiquer une éventuelle augmentation du taux cellulaire au niveau du lait de la vache.
Dans la main du vétérinaire, une plaque blanche avec quatre récipients qui permettront de récupérer le lait. Denis Lecomte va ensuite le mélanger avec un produit réactif.
Et donc le test va mettre en évidence un début de pathologie. C'est pour avoir une utilisation raisonnée des antibiotiques, c'est-à-dire en fait, s'il y a un germe présent, on va d'abord le traiter spécifiquement.
Malheureusement, pour l'une des mamelles droites de cette vache, il y a un souci. Avant de dégainer un traitement puissant, Denis Lecomte va envoyer un échantillon dans un laboratoire pour un antibiogramme. Il permet d'évaluer la sensibilité d'une bactérie à un antibiotique.
Et donc, on ensemence une boîte de pétri et on place des disques d'antibiotiques et on vérifie le degré d'inhibition de la bactérie en fonction de l'antibiotique choisi. Degré d'inhibition ou pas. S'il n'y a pas d'inhibition, on parle de résistance.
Depuis 2016, les vétérinaires sont obligés de passer par un antibiogramme. Ce système plus contraignant est nécessaire selon Micheline, l'éleveuse chez qui nous nous trouvons.
Si on veut connaître la bactérie ou quoi, on est bien obligé d'y passer. Donc on donne peut-être un antibiotique, mais qui n'est peut-être pas valable justement pour ce qu'elle a. Donc si on ne passe pas par le laboratoire, on va peut-être donner un antibiotique qui ne convient pas du tout.
Une autre loi a été adoptée en 2017. Les vétérinaires belges sont maintenant obligés d'enregistrer à la ferme tout antibiotique utilisé. Des mesures qui mèneraient à une véritable diminution depuis leur entrée en vigueur. C'est ce qu'observe l'AMCRA, le centre belge de connaissances pour tout ce qui concerne l'utilisation et les résistances aux antibiotiques chez les animaux. Fabiana Dalpozzo en est la coordinatrice.
Mais je dirais donc qu'il faut le regarder dans une dynamique en évolution et pas se focaliser sur une place plutôt que sur une autre. Il faut plutôt voir que la Belgique a mis en place des actions et ne reste pas à regarder la situation sans agir.
Ne reste que pour le moment, la Belgique est encore l'un des plus gros utilisateurs d'antibiotiques, loin devant ses voisins néerlandais ou allemands. Bonjour Amino.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse avec vous aux jeunes papas européens. En France, il y a quelques semaines, une pétition a fait parler d'elle. En réunissant une quarantaine de personnalités, des hommes réclament la mise en place d'un congé paternité digne de ce nom. L'occasion de faire le tour des politiques européennes en la matière, Eve.
Oui, on commence donc par la France, où ces derniers mois, le congé paternité a plusieurs fois fait irruption dans le débat public. D'abord parce que Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité femmes-hommes, s'est elle-même prononcée pour l'allongement de sa durée. Ensuite, cet été, lors du grand débat sur la répartition de la charge mentale au sein du couple et la prise en charge des enfants ultra majoritairement par les femmes. Et enfin donc, vous l'avez dit, avec cette pétition lancée cet automne par des hommes qui réclament l'allongement du congé paternité à 6 semaines.
Alors, il est à combien actuellement ?
Alors aujourd'hui, le père dispose de 11 jours de congé paternité facultatif pendant lesquels il sera indemnisé. Cette mesure est assez récente, elle a environ 15 ans d'existence. 11 jours qui peuvent d'ailleurs succéder à ce que l'on appelle déjà le congé de naissance, 3 jours accordés et payés cette fois-ci par l'employeur pour l'arrivée de chaque enfant dans le foyer du salarié. 14 jours donc au total pour les jeunes pères. Et si 7 pères sur 10 profitent aujourd'hui de ce congé en France, on constate quand même quelques disparités. Il est très populaire du côté des jeunes pères de moins de 30 ans, beaucoup moins du côté des pères plus âgés ou des travailleurs indépendants.
C'est logique. Alors aujourd'hui, certaines voix s'élèvent d'ailleurs pour rendre ce congé obligatoire.
Oui, car aujourd'hui, il ne fait aucun doute sur le fait que la participation des pères à la vie du foyer se joue dans les premières semaines après la naissance d'un enfant. La mère, elle, de son côté, est obligée légalement de prendre au moins 6 semaines de congé maternité après la naissance pour s'occuper du nouveau-né si elle veut être indemnisée. Congé qui peut s'étendre jusqu'à 10 semaines, voire plus, dans le cas d'un troisième enfant ou d'une grossesse multiple. Mais les entreprises, elles, grognent encore de devoir remplacer les pères salariés plus longtemps.
Oui, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au niveau européen, on ne peut pas dire que les jeunes pères français soient le plus à plaindre.
Non, loin de là. Au sein de l'OCDE, 75% des pays offrent aujourd'hui un congé rémunéré aux jeunes pères. Mais ce n'est pas encore le cas de tous les pays de l'Union européenne. Les États européens les plus généreux dans ce domaine sont le Portugal, 5 semaines de congé pour les pères. La Lituanie, 4 semaines, contre 2 petits jours seulement en Italie et en Grèce, par exemple. À l'inverse, des pays comme la Suisse, hors Union européenne, ou encore l'Irlande, ne proposent pas de congé paternité spécifique.
Alors, les champions, toute catégorie, restent les pays nordiques, Eve, qui misent plutôt sur le congé parental global.
Oui, qui, contrairement au congé paternité cette fois, n'est pas obligatoirement pris après la naissance. Il peut se prendre dans les 3 premières années de vie de l'enfant. 14 semaines en Norvège, 54 jours en Finlande ou encore 60 jours en Suède pour les papas. Souvent pris en exemple pendant les débats portant sur ce sujet, puisque le pays a choisi, lui, un modèle mixte où les parents peuvent se répartir un petit peu comme ils le souhaitent. 480 jours de congé parental au total, avec au minimum 60 jours chacun donc. Modèle qui a d'ailleurs inspiré l'Allemagne, avec 14 mois à répartir aussi entre les deux parents.
Un modèle qui fait la fierté du pays, mais qui pourrait encore être amélioré du point de vue même de certains pères suédois.
Oui, jamais content, car la plupart des jeunes pères prennent les 60 jours, donc obligatoires, mais le reste du congé, même en Suède, reste aujourd'hui encore pris par la mère à plus de 80%, qui élève donc l'enfant seul la première année, en gros, au point que l'Institut suédois a lancé cette année une campagne publicitaire pour donner envie aux jeunes pères de rester plus longtemps à la maison.
Alors, au niveau communautaire, Eve, est-ce qu'une harmonisation serait en vue ?
Ça fait très longtemps qu'on en parle. Une proposition de texte en ce sens a même été faite au printemps dernier par la Commission, instituant 10 jours travaillés de congé paternité, donc au total 2 semaines calendaires de congé pour les jeunes papas, obligatoire cette fois-ci dans tous les pays de l'UE. Mais pour l'instant, le texte n'a pas abouti, preuve que les mentalités ne sont pas encore tout à fait prête à accepter une nouvelle répartition des rôles à la naissance des enfants, en tout cas une nouvelle révolution dans cette répartition.
Merci Eve Minot. Alors Eve, qui nous quitte pour quelques mois, mais pour de très bonnes raisons, je crois.
Je reviens vite.
Voilà, et on vous retrouvera avec plaisir l'année prochaine. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants, le journal.